RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
RMC, il est 10h, vous restez avec nous en direct à la radio RMC, sur RMC Story, le canal 23 de la TNT, avec Joël Dagosséry, la coach de vie, Charles Consigny, l'avocat, Jérôme Marty, le médecin généraliste. C'est la deuxième heure des Grandes Gueules qui commence. Tout à l'heure, à 11h20, on regardera les sondages qui, en ce moment, du côté des responsables Rassemblement National, sont largement en faveur de Jordan Bardella. Donc on a l'impression, au fur et à mesure là que se développe et se termine le procès en appel de Marine Le Pen, que en fait c'est plié, ce sera plutôt Bardella que Marine Le Pen. Est-ce qu'il est vraiment meilleur candidat? On en parlera à 11h20. À 10h20, on a ce qu'a dit le président de la République, on a épousé une époque ensemble, c'est chouette la vie, a dit Emmanuel Macron. C'est l'entretien du président de la République aux médias bruts. Est-ce qu'il est à côté de la plaque, le chef de l'État? Vous venez en parler avec nous. Mais justement, puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, il veut agir sur l'ultra-violence et il s'intéresse à l'influence des jeux vidéo.
Il est clair qu'on a des jeux vidéo violents, qui conditionnent à la violence, qui créent une excitation, une dépendance, où on a des jeunes et des ados qui vont passer des heures et des heures, qui parfois vont pas dormir, donc on a des troubles du sommeil et autres. Et maintenant, on va se poser la question, on va objectiver la question avec des gens indépendants, des scientifiques qui vont nous dire quelle est la réalité des choses, quel impact ça a sur les enfants, et peut-être qu'il faudra interdire.
Donc, pour le président de la République, il faut une étude scientifique indépendante qui aujourd'hui détermine l'impact de jeux vidéo sur le comportement violent des enfants.
Je ne sais pas où était Emmanuel Macron ces 20 dernières années. Je voudrais simplement lui dire au président qui découvre la vie, le jeu vidéo est le premier marché culturel en France, hein, devant celui du livre, du cinéma, de la musique. Le jeu vidéo, c'est des recettes de 4,3 milliards d'euros chaque année. Le jeu vidéo fait partie de la vie des Français et je préciserai à Emmanuel Macron qui, je ne sais pas où il vit, mais que le jeu vidéo, il est pratiqué par les jeunes, les moins jeunes. Il y a des générations de gens maintenant qui ont fait des jeux vidéo.
40 ans.
Vidéo, oui. Ces débats sur les jeux vidéo violents, ça me ramène au débat qu'on avait avec Jacques Maillot, Karim Zeribi, Sophie de Menton au début des années 2000. Et je crois qu'on posait à peu près la même question. Est-ce que les jeux vidéo sont trop violents? Est-ce qu'ils sont responsables de la violence, etc. Donc là, on a le président qui, après 9 ans de pouvoir, nous explique qu'il va regarder les études pour savoir quand même s'il fallait faire quelque chose. Il y a des jeux vidéo violents, qui sont déjà d'ailleurs interdits avec des pictogrammes, etc. Après, c'est aux parents, enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est aux parents de faire respecter à la maison quelques règles, et peut-être de dire qu'à un môme de 7 ans, on joue pas à tel jeu qui est recommandé au plus de 16 ans, voilà. C'est du bon sens. En tout cas, commencer à expliquer que l'ultra-violence qu'on observe serait due aux jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui parle.
Je rappelle simplement qu'en 2019, Franck Riester, qui était ministre de la Culture du président de la République, rendait les jeux vidéo éligibles au pass culture. Voilà, en disant que c'était un art. Alors pas tous les jeux vidéo y étaient éligibles.
Le premier marché culturel.
Mais que grâce au pass culture, on pouvait acheter des jeux vidéo. Alors qu'est-ce que tu en dis, Joël Dagosséry?
Premièrement, moi, je me demande jusqu'à quand on va taper sur les enfants pour l'irresponsabilité des parents. Oui. Jusqu'à quand, en fait, on détache ce que fait l'enfant de ce qui se passe à la maison, de l'éducation, de la responsabilité des parents. Je sais pas. Les jeux vidéo, moi, ma fille et ses amis, depuis qu'elle était en primaire, je sais qu'elle avait déjà des copains qui jouaient aux jeux vidéo, etc. Il y a des âges sur les jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo interdits. C'est comme au cinéma, en fait. T'as des moins de 16 ans, t'as des moins de 12, etc. Et donc, les parents sont censés faire respecter l'âge qui est conseillé sur le jeu vidéo. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour les études, mais il y en a pléthore des études. Et en fait, elle montre que la violence n'est pas liée au jeu vidéo. Elle est liée à complètement autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Entre l'interdiction sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, l'interdiction des jeux vidéo. Mais est-ce qu'on peut aussi penser à les mettre sous cloche, les enfants? On peut aussi les enfermer dans leur chambre et puis qu'ils ne fassent rien du tout. Comme ça, pas de danger, pas de risque, pas d'éducation, puisque de toute façon, il suffit de les enfermer et de tout leur interdire. Ce sera beaucoup plus facile. Donc moi, je comprends pas, en fait. C'est, pour moi, c'est pas de la politique. D'interdire, de tout interdire, oui. Pour moi, c'est pas de la politique.
Et on a Guillaume qui voulait intervenir tout de suite au 32-16. Il est dans les Yvelines. Bonjour Guillaume.
Vous
vouliez intervenir dans notre discussion parce que vous avez beaucoup joué aux jeux vidéo et aux jeux de guerre ou comme on peut dire aujourd'hui de violence, c'est ça?
Ah bah moi je suis de la génération où j'ai eu ma première console, j'avais à peine 10 ans et c'est vrai que bon, à l'époque on faisait un petit peu moins attention qu'aujourd'hui, mais oui, moi j'ai joué, c'est ce que je disais à votre collègue tout à l'heure, c'est que moi j'ai joué aux jeux vidéo les plus violents qui existent entre guillemets, j'ai joué à pour ceux qui connaissent, mais du GTA V, du Assassin's Creed, du Far Cry, Assassin's Creed, tout est dans le nom. Le but est d'assassiner des gens, littéralement. Et c'est des jeux qui sont gore. Et pourtant, je joue beaucoup moins maintenant que j'ai des enfants, parce que comme je joue à des jeux violents, je veux pas qu'elles voient ça, parce qu'elles sont trop jeunes.
Ah, quand même.
Bah, la grande.
Bah oui, mais c'est le GTA. Je crois que c'est déconseillé au moins de 18 ans, GTA, non?
Ah, bien sûr. Mais je reviens un petit peu sur ce que disait, je crois que c'est Joël qui disait ça à l'instant, c'est que sur les jeux vidéo, il y a des limites d'âge. Les jeux vidéo, moi je pars du principe qu'ils ne rendent pas violents. Par contre, quand vous faites jouer, je reprends l'exemple de GTA V qui est quand même un très bel exemple là-dessus, vous faites jouer à GTA V un gamin qui a 8, 10 ans, et j'en ai vu, ce n'est pas normal. Mais au même titre, que vous ne montrez pas un film comme Saw ou Silent Hill ou je ne sais quoi, un gamin qui a 8 ans. Enfin,
bien sûr.
C'est ma vision des choses.
Donc on est dans la responsabilité parentale.
Ah bah, il y a un moment, c'est aux parents de faire le travail. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a un jeune qui fait une action violente, là on parlait l'autre jour du gamin qui a poignardé sa prof. Là. Dès qu'aux États-Unis, parce que ça arrive beaucoup aux États-Unis, il y a des tueries de masse. Je regardais encore tout à l'heure, Columbine, qui est une des pires, c'était en 99. En 99, bon, les jeux vidéo, c'était pas ceux d'aujourd'hui, loin de là. Et à chaque fois qu'il y a un souci comme celui, comme un temps de ce type, on dit c'est les jeux vidéo. Non, heureusement, tous les geeks comme je suis qui ont joué à des jeux ultra violents ne deviennent pas des tueurs de masse. Heureusement, j'ai envie de dire. Et moi, je vois aujourd'hui, j'en reparlais encore avec ma femme à l'instant, un de mes meilleurs amis qui est encore plus geek que moi, qui a fait des compétitions de Counter-Strike et des choses comme ça, c'est le mec le plus gentil du monde qui ne ferait pas de mal à une mouche. Donc, non, les jeux vidéo rendent pas violents. Macron a encore trouvé un truc pour ne pas parler des vrais sujets, parce qu'il sait très bien que sur le coût du travail, sur la sécurité en France, etc., etc., il peut ou ne veut rien faire, ça, j'en sais rien.
Et là, il est à l'heure du bilan, en plus, surtout, maintenant.
Ah bah oui, non, mais là, le bilan, je pense qu'il a compris que vaut mieux pas qu'il le publie.
Il ne changera rien. Il
va partir.
Alors, Guillaume, voilà.
Oui, il veut tout interdire avant de partir.
Guillaume, je voudrais qu'on écoute Caroline, qui est graphiste, justement. Bonjour, Caroline.
Bonjour.
D'accord avec le président de la République ou pas? D'accord avec ce que vient de nous dire Guillaume? Dites-moi, alors.
Alors, d'accord avec Guillaume et pas du tout d'accord avec ce que vient de dire le président. Enfin, moi, mon compagnon, il joue aux jeux vidéo depuis qu'il a 16 ans. Maintenant, il en a 45 et il joue encore aux jeux vidéo. Enfin, je veux dire, il n'est pas pour autant...
Tout type de jeux vidéo, voilà, il est... Voilà. Bah,
surtout les jeux de guerre style Battlefield, Rainbow Six. Et il a commencé sur Counter-Strike en créant de la stratégie, des maps. Enfin, je veux dire, ça a été... surtout un développement, je pense, au niveau de l'intelligence, de l'intuition, de la créativité dans les premiers jeux qu'on a connus.
Ouais.
Enfin, je veux dire, les jeux...
Donc,
vidéo,
en fait, vous dites que Macron est complètement à côté de la plaque, si je comprends bien.
Complètement. Ça fait 3 générations que les jeux vidéo existent. Au Japon, c'est le premier...
Et là maintenant, il veut des études qui existent. Hein, les études existent.
Hein. Non, mais des études...
Ils ont l'impression qu'ils découvrent le sujet, en fait.
Ils n'ont jamais essayé des jeux vidéo. Je veux dire, c'est pour interroger un panel de gens qui jouent à moitié et qui sont pas vraiment dedans. Il y a aucun intérêt. Et qui sont ces pseudo-psychiatres, psychothérapeutes qui sont là pour nous dire...
En revanche, quand les jeux vidéo rencontrent un écho, ça veut dire que chez le jeune, il y a déjà une faille ou un problème psychologique. Et là, c'est vers le médecin que je me tourne. Donc, c'est pas les jeux vidéo qui est en cause, c'est plutôt ce que ressent l'adolescent.
Déjà, interdire, qu'est-ce que ça veut dire dès l'instant où tu as déjà des pictogrammes qui te disent interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 16, interdit au moins de 18, etc. Mais ce que l'on ne peut pas nier, c'est que sur certaines personnalités dites... entre guillemets, fragile ou autre, on peut avoir une addiction aux jeux vidéo où les jeunes vont se perdre totalement dedans. Moi, j'ai dans ma patientèle des gosses qui ont totalement décroché avec l'école parce qu'ils passent 15 heures par jour devant un écran. Alors, vous allez me dire, c'est de la responsabilité parentale. Mais on est devant une addiction. Donc, c'est compliqué. La personne est malade. Donc, c'est compliqué.
Et il y avait un terrain déjà.
Ça peut amener cela. Puis ensuite, vous avez quand même aussi ce que l'on ne peut pas nier, c'est les progrès technologique et l'immersion qui est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle n'était auparavant. Et donc, chez des personnalités un peu fragiles, la dissociation entre le monde réel et le monde du jeu, quand tu as une immersion qui est totale avec des images qui sont difficiles à différencier de la réalité, ben ça peut poser effectivement quelques problèmes. De là à dire il faut interdire à tout le monde, il y a quand même un pas, quoi. Mais Charles, on peut gagner ça, quoi.
Je pense tout simplement que le président vieillit et le temps file. Il était très jeune président quand il a commencé. Il devient un boomer. Et donc les boomers, il y a toujours un moment où ils s'inquiètent de l'impact des jeux vidéo sur les jeunes. Et comme l'a rappelé Olivier, ça dure depuis 20 ans. Bon, moi je suis sceptique sur ce projet tardif par ailleurs d'Emmanuel Macron. Il est exceptionnel parce que chaque jour est un nouveau départ avec lui. Ça fait 9 ans qu'il est là, mais c'est comme s'il venait d'arriver, il lance des chantiers.
C'est beau la vie.
Il découvre l'ultra-violence des jeunes, qui pourtant n'est quand même une surprise pour personne en France. Mais bon, ce qu'on voit, c'est que les jeunes ultra-violents, c'est avant tout un environnement. C'est un environnement social, géographique. C'est des bandes de jeunes Kaira qui, effectivement, sont ultra-violentes entre elles. Mais ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, puisque les jeux vidéo, ils jouent aussi des jeunes qui ont la chance de grandir dans d'autres conditions, dans d'autres circonstances, et ils deviennent pas particulièrement ultra-violents. Donc c'est que c'est pas le jeu vidéo. Il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine comme le docteur Marty pour faire cette analyse empirique. Donc voilà, je trouve
donc
ça un
on
peu
a pas besoin du, on n'a pas besoin d'une étude scientifique non, aujourd'hui pour voir si oui ou non
elles existent. Hein,
les études, elles existent.
Parce qu'on a déjà du recul. On l'a effectivement, comme disait notre ami, il y a trois générations.
Le président de la République, l'État devrait s'occuper plutôt des jeunes qu'il a sous sa responsabilité. C'est là où on l'attend. Les jeunes qui sont à l'ASE, les jeunes qui se prostituent, c'est là où on attend l'État.
Des jeunes qu'on a enfermés au moment du Covid, d'ailleurs.
Mais, oui, donc...
Il l'a enfermé, puisque c'est le Macron qui a décidé
le reste, oui, on peut faire de la prévention, on peut faire des campagnes de prévention, on peut faire des choses comme ça, mais le reste, c'est de la responsabilité des parents.
Je remercie Guillaume et Caroline d'avoir été avec nous. Merci Guillaume et merci Caroline, merci à tous les deux. Je vous souhaite une bonne journée. Damien veut intervenir en discussion. Alors, il a... un point de vue un peu différent, Damien. Il est du côté de Luçon, en Vendée. Bonjour, Damien.
Bonjour, les grandes gueules.
Oui, parce que vous avez tout supprimé, les jeux vidéo.
Ouais, j'ai tout supprimé parce que, en fait, mon fils, ça le rendait fou.
Oui.
Ça le rendait fou. Il jouait principalement à Fortnite.
Oui.
Et en fait, il passait des heures et quand il arrivait pas, il s'énervait, il balançait les chaises, il tapait sur sa sœur, sa grande sœur, qui est plus grande qu'elle.
Il avait quel âge ?
9 ans.
Mais Fortnite, c'est pas pour 9 ans.
Mais le problème, c'est que Fortnite, c'est pas pour 9 ans. C'est ça le problème.
Interdit
moins de 12 ans.
Mais je peux vous garantir que tous ses copains jouent à Fortnite.
Peut-être.
Mais je suis désolée, Damien. Enfin, je veux pas. On est tous parents, mais quand même.
Il a interdit.
Là, oui, mais. Mais ça s'achète pas. C'est ça que je veux dire.
Oui.
Moi, je sais parce que c'est les copains de ma fille aussi jouaient déjà à Fortnite alors que c'était interdit au moins de 12 ans, donc elle m'en parlait. Je lui disais, mais je vais jamais l'acheter, c'est même pas la peine de rêver.
C'est vous qui l'aviez acheté, c'est vous qui jouiez, Damien, et du coup votre fille joue avec vous. Comment ça s'est passé, dites-moi.
Non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout jeu vidéo. Moi, à mon époque, ça n'existait pas, donc
ouais.
Je suis jamais intéressé à ça. Non, je sais pas où il l'a eu. Ça doit être sûrement un cadeau d'un de ses oncles, ou je sais pas.
Et là, c'était aussi de votre responsabilité de pas le laisser jouer. Allez-y, Damien.
C'est bien pour ça que c'est pour ça qu'on a supprimé. Et donc déjà Fortnite, il y joue plus. Maintenant, il a le droit à la console 2 heures par semaine le samedi. Voilà. Et on l'a inscrit à un sport de combat. Et depuis, c'est le jour et la nuit.
Ah oui. Donc il a une activité physique qui a compensé.
Voilà.
Et il va mieux du coup maintenant, ça va.
Et son professeur de boxe là me disait qu'il avait il a beaucoup d'élèves dans ce cas-là.
Ah oui. Ils ont besoin de se...
Ça, je pense que c'est un autre débat. C'est le temps, et on va en parler tout à l'heure, parce qu'on s'aperçoit que les mômes peuvent pas courir plus de 3 minutes sans être épuisés. Mais je pense que c'est plus le problème du temps passé à ne pas bouger, à rester devant un écran. Voilà, on est trop sédentaire. Nos mômes sont sans doute trop sédentaires.
Oui, mais pourquoi? Parce que tu as une aspiration.
Parce qu'il y a le jeu vidéo. Mais bien sûr, mais comme tout. Mais enfin, encore une fois, quand on est enfant, on est toujours dans l'excès, dans les attitudes. Donc c'est pour ça qu'il y a des parents qui sont là pour fixer des règles et autres. Donc effectivement, il faut peut-être remettre nos enfants à faire des activités physiques, mais il ne faut pas non plus avoir peur qu'ils sortent dans la rue, parce que c'est vrai qu'on est une génération avec Alain, par exemple, où on partait le matin jouer dehors, retrouver nos copains, on n'avait pas de portable, donc notre mère nous faisait confiance, il nous disait tu rentres à 17h, et elle ne nous voyait plus, et moi je jouais dans la résidence avec mes copains, on faisait des conneries, etc. Et on était toute la journée dehors, parce qu'il n'y avait rien qui nous retenait, à part la télé qui quand même commençait à venir, qui nous retenait à la maison, mais c'est vrai que c'était une autre génération.
Après, le problème, c'est que quand on travaille, moi je fais à peu près 50 heures par semaine, ma femme elle en fait 40, on n'est pas souvent là, donc le temps qu'on n'est pas là, on ne laisse pas sortir, et, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on n'est pas là.
Attends, les mômes sont à l'intérieur.
Sans parler de d'agression ou quoi que ce soit, mais il peut tomber de vélo, il peut faire n'importe quoi, quoi.
Non, mais on est dans une société, mais on fait tous pareil, mais maintenant, tout doit se passer à la maison, et on pense que l'enfant, en restant dans sa chambre, il est protégé. Sauf que l'enfant, dans sa chambre, il est sur les réseaux sociaux, il passe sa vie à faire des choses qui nous échappent.
C'est vraiment pas facile, parce que l'arbitrage, enfin, moi, je le vois en tant que maman, l'arbitrage, il est compliqué. Quand elle me dit je peux sortir et tout, t'imagines tout ce qui peut se passer dehors, t'as écouté l'actualité, machin, t'as juste envie de lui dire non, reste à la maison. Et t'es obligé de prendre sur toi et de,
parce que le cocooning.
Le développement du cerveau, quand même, enfin, c'est bien qu'elle aille discuter avec d'autres personnes que de rester sur son téléphone.
Le sport, en particulier les sports collectifs.
Damien, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci de ce témoignage concernant votre fils. Ultra-violence des jeunes, est-ce que c'est la faute aux jeux vidéo selon vous, oui ou non? On va voir ce que vous en pensez. Vous nous dites non à 81%. Suite des GG dans un instant, avec le président de la République, toujours grande interview à nos confrères de Brut, dans laquelle il estime qu'on a épouser une époque ensemble. C'est comme ça qu'il parle aux Français, Emmanuel Macron. On a épousé une époque ensemble. C'est chouette la vie. Voilà ce que dit le chef de l'État.
En faisant son bilan.
Vous venez en parler avec nous, bien évidemment, au 32-16.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, Joël Dagosséry, Jérôme Marty, Charles Consigny et vous bien évidemment au 32-16. Il est 10h25, décidément cette interview, cet entretien accordé par le président de la République à nos confrères de Brut nous donne matière à discussion.
C'est une génération, ça fait 9 ans que je suis là, c'est long pour les gens. Non, enfin en tout cas on a épousé une époque ensemble. Ce que je veux dire c'est que c'est chouette, c'est la vie. Et donc, ce que veut dire cette expression, c'est qu'on en a, on a quand même traversé de drôles de périodes. Quoi.
Alors bien sûr, ça fait 9 ans, on a traversé de drôles de périodes, dit le président de la République, avec le regard tourné vers le ciel, comme s'il commençait à se souvenir, à faire le bilan de l'Élysée.
Sauf qu'auparavant, dans cette interview, il a fait le bilan de ses 9 ans. Il dit, donc il parle de la guerre en Ukraine, du Covid, d'histoire du Groenland, de tous les problèmes que la France a connus, et il finit par dire, oh, bah, c'est chouette la vie, etc. Je pense qu'il pense à lui-même. Il y a toujours chez lui l'autosatisfaction qui s'affiche. Il peut pas le cacher. Il est content d'être là. Il est content d'avoir vécu ça. Je trouve, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, il va chez Brut pour parler aux jeunes, hein. Quand il va chez Brut, il se dit, je parle aux jeunes. C'est pour ça qu'il parle comme ça, d'ailleurs, un ton un peu détaché. Mais c'est quand même la même semaine, que la tentative d'assassinat sur cette enseignante. C'est la même semaine que des faits d'ultra-violence qui touchent les jeunes nous inquiètent. Et là, il dit, c'est chouette la vie. Dans un moment, quand même, d'angoisse aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde, avec des guerres autour. Enfin, est-ce qu'il y a pas un décalage total,
Joël?
Oui, mais en même temps, il est aussi sur un petit nuage. Il vient de vendre 1000 paires de lunettes, 1000 paires de lunettes à lui seul. Je peux te dire que l'économie française, ça repart.
Le commerce extérieur, les chiffres sont pas trop mal.
Ça, c'est pas trop mal.
Non, attendez. le déficit est moins fort.
Moins fort, mais c'est assez.
Je rappellerai que nos amis italiens, ont un excédent. Voilà, c'est possible.
Regarde, il faut toujours se satisfaire.
La vérité, première chose, c'est que ça fait 9 ans qu'il est là et que c'est un peu comme moi, j'avais l'impression d'avoir connu que François Mitterrand. À un moment, c'était mon président à vie. Et je pense que pour beaucoup de jeunes, qui avaient peut-être, qui étaient en primaire quand Emmanuel Macron est arrivé, qui sont à la fac maintenant, bah pour eux, c'est Macron, c'est leur président, tu vois. Et donc, il fait référence à la vidéo qu'on lui montre, qui parle de la France à Macron. Parce que c'est une expression très populaire, d'ailleurs que ma fille emploie aussi, la France à Macron, qui définit, malheureusement pour lui, la galère, en fait. Quand les gens utilisent cette expression, c'est pour décrire la galère. La dernière fois, j'étais au McDo et il y avait des policiers en pause, je pense, qui venaient chercher leur menu. Et ils se demandaient s'ils allaient faire des heures sup. J'entendais comme ça dans la queue. Et ils disaient, ah ouais, non, mais dans la France à Macron, t'imagines, c'était des jeunes, hein, des jeunes policiers dans la France à Macron, bien sûr que je vais faire des heures sup. Il y a quelques mois, ma fille cherchait un stage. Et elle ne trouvait pas de stage. Donc, elle faisait toutes les boutiques. Elle rentrait chaque soir bredouille. Je lui dis, alors, ça marchait et tout. Elle me dit non. Après, elle me dit, ah là là, maman, dans la France à Macron, c'est plus facile de voler le Louvre que de trouver un stage. Donc, en fait, c'est devenu oui, une expression pour dire que dans la France à Macron, on galère. Voilà. Donc, il n'y a pas à s'en réjouir et dire on a passé un bon moment ensemble. Non. Ça ne veut pas du tout dire ça. Et je pense qu'il le sait.
Charles.
Oh, mais je le trouve, si vous voulez, attendrissant. Mais depuis 10 ans, le pays s'est affaibli. C'est ça, malheureusement, la réalité difficile. Alors lui, il peut dire qu'il a plus ou moins vaincu le chômage, c'est vrai, même si ça repart un petit peu, il faut lui reconnaître ça. Et qu'il a essayé de rendre la France plus attractive pour des investisseurs étrangers, c'est vrai aussi, même si c'est pas mirobolant. Dans l'ensemble, quand même, le bilan, c'est un affaiblissement assez notable de la France qui se paupérise. Et donc, je sais pas si c'est si chouette. Et par ailleurs, je sais pas quelle est sa phrase exacte, on a traversé une époque ensemble. Voilà, on a épousé une époque ensemble. Moi, sa famille politique, sa doctrine, cette clique de gens... qui pour certains, je suis désolé, ont été aussi une famille de... C'était terriblement cheap aussi, il faut dire les choses comme elles sont, des nominations de gens complètement incompétents à des postes très importants. Ça a été aussi ça, la séquence qu'on a vécue. Je trouve qu'on a baissé, y compris sur la qualité du personnel politique, parce qu'au départ, il y a cette espèce d'idéologie bâtarde où on ne sait pas vraiment ce qu'ils défendent, s'ils sont libéraux ou pas libéraux, s'ils sont patriotes ou pas, s'ils sont...
Lui-même, il a souvent changé d'avis.
Oui, mais du coup, ça ruisselle. Ça, pour le coup, ça a ruisselé. Et donc, je suis désolé, mais il n'y a pas eu un ministre de la Culture correcte pendant tout le quinquennat. Alors, les deux quinquennats, là, il y aura peut-être quand même... Madame Pégard, si j'en crois les confidentiels de presse, donc là au moins on aura quelqu'un d'à peu près capé pour le poste, mais il y a eu du zigzag sur l'éducation, Blanquer était un bon ministre, ensuite on a mis Papendiaï qui a fait le contraire de Blanquer, il y a eu des gens notoirement incompétents pour les postes auxquels on les a nommés, beaucoup de choses qui... Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir... partager la même époque, en fait. J'ai plutôt attendu que ça passe.
C'était 9 ans pour rien.
Et j'en sais rien. Non, mais après, que lui soit de bonne foi et qu'il ait essayé de faire de son mieux, etc., d'agréger le plus de gens possible et tout, peut-être. Mais le bilan, c'est quand même un pays qui est très affaibli. Et je pense qu'il y a quand même un reproche qu'on peut lui faire, c'est que je crains quand même, sans vouloir l'accabler, mais il a trop succombé à son narcissisme.
Évidemment, mais parce que c'est...
Et ça a quand même un peu éteint sur tout.
C'est l'histoire d'un hyper-présidentialisme, c'est l'histoire d'une rupture et c'est l'histoire d'une dissolution, quoi. Il est arrivé à dissoudre la politique, Macron. Il est arrivé en ayant dissous les autres partis. Il a dissous les LR, il a dissous le PS et il a surgi de nulle part avec un parti qui n'existait pas et qui dans sa forme même n'existait pas puisque les adhésions sont gratuites.
Et qui n'existe
Et qui n'existe toujours pas vraiment. Et on se souviendra de Macron, mais on se souviendra absolument pas des gouvernements Macron. On se souviendra absolument pas des ministres Macron. Donc il a dissous à la fois les gens qui l'entourent et il a dissous tout le monde politique autour de lui. C'est l'histoire d'une dissolution. C'est un prestidigitateur. Il fait disparaître les gens, Macron, quoi. Et il reste que lui. Donc évidemment, il dit c'est chouette. On a traversé des périodes. C'est chouette, c'est la vie, mais en fait c'est de lui dont il parle. J'ai traversé et je suis toujours là, les gars.
Ce qui est marrant,
c'est chouette parce que malgré tout je suis toujours là. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que certes il a subi des crises type gilets jaunes, Covid, etc. Mais il en a créé d'autres. Quand il dissout l'Assemblée, personne ne lui demande de le faire.
Les gilets jaunes, il l'a créé aussi.
Et il le crée. Et les gilets jaunes, tu as raison, il le crée parce qu'il veut pas, il ignore totalement les corps constitués que sont les syndicats. Et donc, évidemment, il a la rue en face. Mais donc, il y a une façon de faire qui est cet hyper présidentialisme. On disait Jupiter à l'époque. Donc, il est seul à exister. Mmh. Il est seul à rester.
Parce qu'il est persuadé qu'il est le seul.
Et au final, il dit, c'est chouette, je suis
avec toi. Moi, je pense qu'il est seul.
Mais c'est pas on a épousé, c'est
génial. Non, mais attends, il est seul, pourquoi? Parce qu'il est persuadé d'être le meilleur.
Oui.
Parce qu'il est persuadé d'être le seul d'avoir. Regarde,
il supporte pas d'avoir des gens forts en face de lui. Donc, pour rejoindre ce que dit Charles, il y a eu un effondrement de la classe politique et en particulier au niveau de son propre parti parce qu'il ne veut personne.
Je pense qu'il est persuadé de savoir mieux que les autres. C'est le syndrome du bon élève. C'est le syndrome du bon élève. D'ailleurs, moi, je suis toujours étonné que quand il parle d'un sujet, et d'ailleurs, les gens qui le rencontrent disent, ah, c'est formidable, il maîtrise tellement bien les dossiers. Oui, sans doute.
C'est la réalité.
C'est le bon élève. Alors, il maîtrise. Mais il va plus loin. C'est-à-dire qu'il t'explique ensuite. Moi, j'ai toujours été frappé par cette séquence il y a quelques temps. C'était après le Covid, où il visite un hôpital. Il est face à une infirmière qui doit avoir 25 ou 30 ans de métier, et il lui explique son métier. Il lui dit, maintenant, il faut faire comme ci, comme ça. Je lui dis, quand même, quel culot, ce président, qui n'a pas une grande expérience de la vie, et qui explique à une infirmière qui fait ça depuis 30 ans, comment elle devrait faire. Et il a fait ça pour tout. Les jeux vidéo, il va nous expliquer c'est quoi un jeu vidéo, etc., alors qu'il n'y connaît rien. Et ce côté je sais tout et donc j'ai pas besoin d'être entouré de gens de talent puisque de toute façon c'est moi le meilleur. J'ai pas besoin d'avoir de ministre puisque je suis moi-même le meilleur.
On va en parler avec Vincent qui est avec nous. Vincent qui est directeur d'école. Bonjour Vincent en Gironde.
Bonjour, du côté de
Bègle. Alors on a épousé l'époque ensemble, hein, Emmanuel Macron et nous. Qu'est-ce que vous en dites, Vincent?
Alors il y a deux choses sur le fait d'épouser là. Bon, il avait quand même beaucoup soutenu Monsieur Depardieu, donc je pense qu'on n'a pas la même idée du consentement avec Monsieur Macron, parce que ce mariage, clairement, il est forcé, surtout vu les résultats. On va pas revenir sur le fait que la NFP était premier aux dernières élections législatives, il a décidé de pas nommer un seul ministre de ce groupe-là. Donc le fait d'épouser, moi j'ai rien épousé avec lui, ça a été complètement contraint et forcé. Et ensuite, surtout sur Macron, ce qui me faisait penser à un truc, quand j'étais en fac d'histoire, j'avais étudié la Révolution française. Et je sais pas si vous savez, mais Louis XVI, dans son carnet personnel, le jour de la prise de la Bastille, il a écrit rien. Voilà, dans son carnet. Preuve d'une totale déconnexion vis-à-vis de ce qui était en train de se passer. Et je trouve que Macron, en fait, c'est une nouvelle fois, la caricature du déni du monde dans lequel il est. Alors je pense qu'il en est quand même un minimum conscient, j'espère pour lui et pour sa santé mentale qu'il s'en rend quand même un minimum compte, mais la plupart des combats en plus qu'il avait promis de mener, des combats essentiellement souvent sociétaux, je veux dire, la défense du droit des femmes, on voit où est-ce qu'on en est, il s'est trompé surtout, il avait promis d'être le rempart contre l'extrême droite. On voit maintenant que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Je revoyais ce matin le chiffre du nombre de SDF en France, qui a doublé. On est passé de
120 000. Personne ne dormira dans la rue.
Et on est passé de 120 000 à 350 000. C'est même pas une. Vous rendez compte? Donc, en fait, moi, je trouve.
Et les déserts médicaux, on en parle?
Non, mais c'est ça. Mais moi, je suis enseignant. Donc, je peux vous dire dans quel état il a mis l'école aussi. Donc. En fait, il y a un côté un peu néron aussi, vous savez, alors je suis beaucoup dans les images, mais ce côté-là, je vois
ma vie. C'est ce que disaient nos amis Domenac et Safran.
C'est quand même dingue, et enfin, moi je pense que ça pose la question de sa santé mentale, enfin, à ce point-là, enfin, ou alors d'un machiavélisme poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'il est au courant qu'il a foutu la France à feu et à sang. Et dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que moi ce qui m'inquiète beaucoup, désormais, et c'est une des conséquences des deux mandats de Macron, c'est la fracture qu'il y a dans la société, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun sujet qu'on peut traiter maintenant sans qu'il y ait un clivage fort, vous voyez, et qui fait que tous les sujets maintenant sont très conflictuels.
Alors qu'il était censé rassembler tout le monde, puisque le en même temps, c'était plutôt
rassembler un maximum pour une sorte d'osmose un petit peu au niveau du pays. Je dis maintenant, tous les sujets que l'on traite désormais sont clivants. Alors, je ne suis pas pour le consensus non plus, mais voilà. Il a rendu tendu tous les sujets sociétaux. Moi, je suis enseignant, je le vois. La question de la laïcité, la question des...
Oui, mais ça, on disait pareil de Sarkozy.
C'était moins prégnant quand même.
Alors, est-ce que c'est de la faute d'Emmanuel Macron ou est-ce que c'est la société qui a changé aussi, Vincent, parce que vous parlez de la laïcité?
Alors moi, je suis pas pour le régime présidentiel tel qu'il est, avec ce mec-là qui décide de tout, notamment de pas nommer un gouvernement NFP il y a quelques mois. Mais je veux dire, pour moi, ce type-là est un danger. Vous pouvez me reposer la question.
Pas un danger, il faut pas exagérer non plus.
Il reviendra, vous savez, Vincent. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Oui. Il va quitter le pouvoir, il peut pas se présenter une troisième fois. Je pense qu'il va tout faire pour se présenter dans 6 ans maintenant. Oui, et vous verrez la stratégie. Ouais. Parce que là, quand on lui pose dans cette très bonne interview à Brut, on lui demande la question, mais est-ce que vous avez des regrets? Il dit non, c'est pas le temps des regrets. Bien sûr, c'est pas le temps parce que il le fera après, vous verrez. Pendant les 5 ans, il va faire un livre, il va faire acte de contrition, il va dire effectivement, j'ai changé. Il y a des choses que je n'ai pas réussi. Il y a mon rapport aux Français qui était pas génial. Mais vous allez voir, je vais m'améliorer et fort de l'expérience de mes 2 premiers quinquennats, je suis prêt pour un troisième. Vous verrez, le scénario est écrit. Il reviendra.
Il essaiera dans le jeu.
Les autres ont échoué. Ah, on va voir, parce que peut-être que François Hollande échouera aussi.
Vincent, je vous remercie d'avoir été avec nous, mon cher Vincent. Je vous souhaite
avec nous
une bonne journée.
Vieillir avec nous.
Justement, parce que Vincent disait, il a réussi à cliver la société. Maintenant, tout est conflit. Bah, justement, et ça se voit aujourd'hui parce que il suffit de regarder les sondages. Qui va vers la présidentielle? Ben, aujourd'hui, le favori, c'est Jordan Bardella.
S'il laisse les clés l'Élysée à Bardella.
Ou à Mélenchon.
Là, ça sera quand même l'acte final sur son bilan.
Ou à Jean-Luc Mélenchon. Dans tous les cas, on va s'intéresser à Jordan Bardella parce que maintenant que le procès en appel de Marine Le Pen avance et on arrive la semaine prochaine aux plaidoiries, puis ensuite, l'été prochain, ce sera le jugement. Mais ce que l'on voit, c'est que Jordan Bardella, il s'installe au Rassemblement National comme étant le meilleur candidat que Marine Le Pen. Donc, est-ce que Marine Le Pen doit plier les Gaules? Et c'est Jordan Bardella qui doit y aller. C'est au 32-16 qu'on en parle avec vous. Il est 11h20.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1,
2, 3, 4.
Bonsoir, moins le quart avant de continuer à parler politique. Est-ce que ça vous dit de gagner jusqu'à 30 000 euros exonérés d'impôts, puisque ce sera du gain de jeu? Oui, j'imagine. Et ça, ce sera possible vendredi prochain. Nous serons le vendredi 13. Mais pour ça, il faudra faire tourner la roue. Il y aura 5 000 euros à gagner, 3 000 euros, 2 000 euros et le jackpot de 30 000 euros. Il faut envoyer 13 par SMS au 7-32-16. 13 par SMS au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Et puis ensuite, il y aura le tirage au sort. Et peut-être vous jouerez avec nous vendredi prochain pour gagner jusqu'à 30 000 euros. Allez-y, vous avez 10 minutes de temps d'inscription. Faites, à vous de jouer, à vous de gagner. Est-ce que pour les sympathisants Rassemblement National, Jordan Bardella, c'est tout simplement le meilleur? Bah oui, si l'on se fie justement à cette étude qui est sortie, un sondage Odoxa publié par Le Figaro dans la perspective toujours de la présidentielle de 2027.
Oui, Jordan Bardella est plus populaire que Marine Le Pen auprès des Français et auprès des sympathisants RN. C'est ça qui est intéressant au moment où on s'interroge sur savoir qui sera le candidat RN. Bon, c'est la justice qui va décider. A priori, c'est mal parti pour Marine Le Pen. Donc, Jordan Bardella va devoir la remplacer. En fait, on s'aperçoit que le plan B est un plan A parce que pas moins de 69% des sympathisants RN estime que Jordan Bardella serait un meilleur candidat que Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. Ça, c'est quand même 69, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'en fait, les sympathisants RN, ils sont dans le coup d'après, quoi. Ils sont sans doute. Et alors, il y a des raisons à ça. C'est-à-dire que Bardella, c'est quand même le renouvellement. Marine Le Pen est là depuis quasiment toujours. Si elle se présente, ça sera sa quatrième candidature. Il y a toujours le nom Le Pen quand même qui ramène à l'ancien monde, même si elle-même avait fait le ménage, elle avait exclu son père, mais quand même elle s'appelle Le Pen. Et Bardella séduit des nouvelles personnes, notamment beaucoup de jeunes via les réseaux sociaux. Il rassure peut-être un peu plus des électeurs de droite sur la partie économie, entreprise, business. Bref, Bardella, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est un meilleur candidat que Marine Le Pen?
Jérôme? Inévitable, je dirais, puisqu'elle va être sans doute être condamnée. Qui d'autre que lui? Ils ont fait monter personne d'autre. Donc à un moment, le seul qui imprime l'écran, c'est lui. La tête de gondole, c'est lui. Depuis des mois et des mois et des mois, on a préparé ça, on a intégré ça dans le cortex des gens et au sein de son propre parti. De toute façon, ils n'ont pas d'autre solution. Donc ça serait même le 69%, ça me paraît, c'est même assez bas. Je pensais que ça serait plus. Moi, je visais plus 75%.
Bah, quand même, historiquement, c'est elle qui porte le parti.
Oui, mais elle est morte politiquement. Oui. Donc si tu veux, à un moment, il faut tirer, quand le vin est tiré, il faut le boire, on dit. Donc là, le vin est tiré, probablement. On peut peut-être être trompé par la justice, mais probablement. Donc il reste le jeune Bardella, comme dirait Charles. Mais
c'est plus un plan B, c'est un plan A.
Ouais, c'est un plan A, évidemment. C'est un plan A, mais qu'ils ont préparé. Donc c'est en ça, le plan B était utile, parce que sans plan B, t'aurais pas de plan A aujourd'hui. Donc ils ont montré qu'ils avaient quand même une capacité à gérer la possibilité de sortie de Madame Le Pen. Est-ce que ça donne au jeune Bardella la capacité de gouverner? Moi, il m'inquiète plus que Madame Le Pen, quand même.
D'autant que Marine Le Pen a quasiment elle-même provoqué une dynamique Bardella qui était déjà là en disant « il peut gagner à ma place ». Si tu veux, donc, pour exemple, si la patronne le dit aussi,
oui, elle lui a pas s'abonné à la planche.
Non,
bien au contraire.
Ce qui, en général, c'est plutôt le cas en politique, tu s'abonnes la planche de celui
qui est censé. Tu préfères limite que ton adversaire gagne que celui qui est censé être avec toi.
Ceci étant, c'est pas fini.
Non, bien évidemment.
Parce que tu peux,
Oui, bien sûr. Charles.
Je veux dire, le goût de la victoire sera trop fort.
Oui, mais
si la victoire s'annonce, tu verras que tout le monde sera derrière Bardella.
Et puis, dans ton propre camp, tu trouveras toujours des bonnes âmes.
Oui, voilà, pour t'aider.
Oui, mais ils ont tous envie d'être ministres. Bah oui.
Dans l'histoire, il y a souvent eu des leaders très jeunes. On l'oublie, mais il y a eu des leaders qui avaient 30 ans et qui menaient des armées. Sauf que souvent, ils avaient pour répétiteurs les plus grands esprits de leur temps et ils étaient dressés dès la petite enfance à la haute philosophie, à l'art de la guerre, au maniement des armes, à la géographie. Et en fait, comme l'espérance de vie générale était beaucoup plus faible, avoir 30 ans à l'époque, c'était comme d'en avoir 45 aujourd'hui. Là, la réalité quand même, c'est que le jeune Bardella, il est, je pense, très court, moi, pour présider notre pays. Et je pense que tout simplement, ce que ça montrerait, c'est que ça acterait pour moi le passage de la France comme puissance de seconde division, tellement devenue subalterne qu'elle peut se payer le luxe finalement d'être emmenée par un trentenaire sans lettres ni expérience. C'est ça la réalité. Donc moi je pense que ce serait quand même.
Comment expliquer que les sympathisants RN,
alors
très majoritairement,
il y a deux choses. Il y a les sympathisants RN et les Français. Les sympathisants RN,
ils pourraient continuer à dire bah non, c'est Marine Le Pen qui est meilleure.
Vous savez, on dit on change pas une équipe qui gagne, mais peut-être qu'on change quand même une équipe qui perd. Donc Madame Le Pen, elle a, malheureusement, elle a des qualités, elle a Elle a beaucoup de choses pour elle, mais elle a quand même perdu plusieurs fois l'élection présidentielle. Elle s'est retrouvée souvent un peu tétanisée au débat du second tour.
Là, il y a le procès.
Et par ailleurs, la justice frappée du bris va l'empêcher d'être candidate. C'est ça la réalité. D'ailleurs, ça devrait nous interroger, nous, que ce soit la justice qui systématiquement
qui fait le
casse
casting.
Les candidatures et empêche les uns et les autres d'être candidats. Et ensuite, il y a les Français. Et ça, je pense que c'est pas tant Bardella, même s'il il n'est pas sans talent. Hein. Il ne s'agit pas du tout de lui dénier son talent de communicant, même de politique, de tout ce qu'on veut. Mais c'est une lame de fond pour le RN, parce que il y a d'une part le discours sur la sécurité et l'immigration,
une vague
qui fait que les gens, c'est comme les gens qui veulent beaucoup plus de fermeté au pénal, etc. C'est-à-dire qu'ils ont envie de ce truc-là. Et ensuite, il y a le fait que ça devient une des seules alternances possibles. Ça, moi, je crois. Je termine par là parce que je crois beaucoup à ça. Je pense que en cassant l'alternance, ce truc abominable qu'on appelle le bloc central pave la voie du RN.
Voilà. Mais bien sûr.
Et la gauche radicale à gauche.
Ça nous gonfle le bloc central. Il faut arrêter avec ça. Il faut, moi, je pense, je suis pour une pluralité de candidatures. Il faut des offres nouvelles. Il faut des gens différents.
Jérôme Gaël.
On n'a pas envie de reconduire les mêmes équipes.
Non, mais on est reparti dans le tunnel. Alors, Joël.
C'est ça.
Non, ça y est, j'ai fini. Parce que je sentais que Joël n'avait rien à dire.
Mais Joël,
j'ai rien d'intéressant.
Elle a trop
beaucoup,
à dire.
Beaucoup de choses à dire. Première chose, c'est que moi, je comprends, en fait, les sympathisants RN. Ils sont fous dans quelque chose qui est beaucoup. Très bien, merci. Ils sont pris dans des filets qui sont très puissants, qui ne sont pas politiques, mais qui sont le marketing. C'est du marketing.
Tout à fait.
Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Si vous voyez que les publicitaires sont payés autant d'argent, c'est parce que c'est beaucoup plus, c'est plus puissant que n'importe quoi. Première chose en marketing. Désolée, je vais faire, parce que c'est aussi une partie de mon travail. Donc, je vais vous dire un peu, moi, ce que je vois, au-delà des idées de Bardella. Première chose, en marketing, on sait que le cerveau aime la nouveauté. Donc, Bardella, c'est un produit tout neuf. Mm-hmm. C'est neuf,
comme Macron,
c'est lisse, exactement oui. Ce qu'on a été, on a été pris dans les filets de Macron pour ça aussi. Mmh. C'est neuf, c'est lisse, ça n'a pas d'antécédent, ça n'a pas de bilan. Donc en fait, on peut lui donner le bon Dieu sans confession. Voilà, tout simplement.
Donc on peut lui donner l'Élysée sans confession.
C'est que le cerveau, c'est une sorte de hack du cerveau, piratage du cerveau, pardon. Donc c'est comme si tu pirates le cerveau de quelqu'un, et c'est ce qu'on nous fait avec Bardella. La deuxième chose, c'est que Madame Le Pen, en fait, vit le drame de plein de salariés en France qui sont dépassés par des gens moins compétents. Mais qui savent se vendre, voilà, qui maîtrisent l'art de se vendre. Et je peux vous dire qu'il y en a plein, puisque moi mon travail c'est justement d'aider les salariés qui sont très compétents à rattraper ce problème-là. Et ça a été théorisé notamment par un philosophe, on appelle la médiocratie, qui est une réalité. Donc dans la médiocratie, on aime les gens qui sont très moyens. Et les gens qui sont très moyens, en fait, ils sont très lisses. Ils te disent ce que tu veux entendre. Donc par exemple,
oui,
la sécurité, il est un peu libéral. Ah tiens, les gens ont besoin d'entendre du libéral. Alors moi, je vais mettre un peu libéral. Donc ils sont très lisses. Et dans la médiocratie, aussi, au-delà des gens très moyens, on va aussi avoir des compétences sociales qui vont être valorisées plus que de la compétence technique. Et c'est exactement ce qu'il est, monsieur Bardella. C'est quelqu'un qui maîtrise la compétence sociale.
Oui, il a compris mais il y a quand même une attente de la population et aujourd'hui une envie de la population de renverser la table, voire plus.
En fait,
la vérité, c'est qu'il ne va pas renverser la table, très concrètement.
Par exemple,
tu regardes dans les propositions. On sait très bien qu'on a un déficit massif. On sait qu'on connaît comment le budget de l'État est réparti. On sait que les retraites prennent énormément d'argent, que les dépenses sociales prennent énormément d'argent. Et monsieur Bardella ne te propose pas
de remettre... Oui, mais sauf que ses adversaires non plus. Donc,
oui, mais,
en fait,
mais donc,
oui, mais
donc il ne peut pas être le contrat de l'alternance. Il ne peut pas être le candidat de l'alternance.
Oui, mais parce que si tu mets face à Bardella un Édouard Philippe, c'est du pain béni pour Bardella.
Mais j'ai pas dit que les autres étaient...
Parce que Édouard Philippe a beau essayer d'être l'homme de la rupture, il sera
l'homme de la rupture. Je dis que Bardella ne l'est pas. Ça, c'est clair et net.
Il sera toujours plus qu'Edouard Philippe.
Je suis d'accord avec Joël. Je pense que même Edouard Philippe quand tu regardes le détail, en réalité, il promeut plus de changements.
Oui, c'est vrai. Ça sera pas jugé crédible, non. Puisque
il a un programme plus en rupture crédible. Avec ce qui se fait aujourd'hui.
Il dira, on lui dira, mais pourquoi vous l'avez pas fait maintenant? Parce que je pouvais pas. Mais il sera forcément comptable de Macron. C'est pour ça que la force, à mon avis, de Bardella, c'est que les gens qui seront face à lui, sauf si c'est Mélenchon ou quelqu'un de gauche, bah les autres, ça sera de la Macronie et ça sera tellement facile pour lui d'incarner la.
Alors, on a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que Jordan Bardella est un meilleur candidat que Marine Le Pen? Donc là, on est au-delà des sympathisants RN. Ben, c'est un oui à 66%.
À peu près.
Suite des GG dans un instant avec le député Les Républicains Philippe Juvin. Il est médecin. Les Républicains
ont besoin
en fin de vie. À tout de suite avec les Grandes Gueules.
Est-ce que nos auditeurs
RMC 9h midi. Les Grandes Gueules.